Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Au moment où j'enregistre, je suis à Longueur d'onde, le festival de la radio et de l'écoute, ancré à Brest, en Bretagne. Au cours des deux dernières éditions de Longueur d'onde, un collectif nommé Transmission a remporté le prix de la création documentaire catégorie Petites ondes. Je vous propose de découvrir le lieu que ce collectif Transmission a créé et qu'il fait vivre. Ce lieu, c'est la cassette. Il est dédié à la narration sonore et a pour objectif de la rendre plus accessible. Pour le découvrir, direction Aubervilliers, où l'on va retrouver Ziad Mahalouf. Si vous êtes un fidèle de RFI et de l'Atelier des médias, ce nom ne vous est évidemment pas étranger. Ziad est devenu l'un des cofondateurs de Transmission et de la cassette. C'est lui qui accueille Pauline Linard-Casanave.
RFI.
Bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir à la cassette.
Je t'en prie, je t'en prie.
Tu peux me présenter l'endroit ?
Alors, on est donc ici à la cassette. C'est un lieu qu'on a ouvert en juin. C'est à Aubervilliers, dans la banlieue de Paris, une des banlieues les plus pauvres de la région parisienne et de ce qu'on appelle la petite ceinture. Et donc, c'est un lieu qui est porté par le collectif Transmission, dont je fais partie, et qui est à la fois un café associatif, donc un café où les personnes qui viennent peuvent s'asseoir, prendre un café, boire un jus, boire un soda. Dans le fond de ce café, tu vois trois sortes de cubes en bois de tailles différentes, deux petits et un plus gros. Et ça, ce sont des studios partagés, en fait. Donc, c'est des petits studios radio pour les personnes qui peuvent en avoir besoin. Donc, par exemple, pour une personne qui fait un petit documentaire radio, qui a besoin d'enregistrer sa voix. Donc, l'idée, c'est que ces espaces-là, ces petites cabines, sont accessibles très facilement avec des tarifs qui vont de zéro, en fait, quand les personnes n'ont pas de moyens, à un tarif qui est très bas, quoi, de l'ordre de quelques euros ou quelques dizaines d'euros pour une heure. L'idée derrière ça, c'est d'abord d'encourager la création sonore et aussi de permettre à beaucoup de personnes de tous âges, du quartier et d'ailleurs, de comprendre comment se fabrique la radio, donc de faire un peu de médiation autour de ce média pour que les gens, s'ils ont envie de comprendre comment ça se passe, ils peuvent le voir, et s'ils ont envie d'apprendre, qu'elles puissent venir regarder ou participer à des ateliers, des initiations, des activités qu'on organise du coup dans le lieu aussi. Donc si tu veux, on peut rentrer dans cette cabine, on appelle ça une cabine, qui est donc insonorisée et qui en plus a une acoustique qui est intéressante pour la radio. Vas-y.
Merci beaucoup.
C'est petit, hein. Ça ressemble à des grandes toilettes, quoi. À des grandes toilettes. Alors je vais fermer une première porte, voilà, et je ferme une deuxième porte.
Et là, c'est vraiment parfait
pour un entretien. C'est vraiment la taille minimale, mais en même temps c'est pas mal parce que tu peux être proche et c'est vrai que là, les auditeurs et les auditrices ne le voient pas, mais tu portes un enregistreur, donc tu es obligé d'être à maximum une distance de bras de moi. Donc on peut être proche et en même temps, on a un lieu qui est très calme. On entend juste un tout petit peu d'air, quoi, qu'on peut couper quand tu as besoin, mais qu'on laisse pour que le lieu soit plus sain, quoi. En fait, ce qui nous a poussé, parce qu'on est cinq cofondateurs et cofondatrices du collectif, c'était le constat qu'il était en train de se passer quelque chose dans l'univers du son et de la radio, avec le développement du podcast notamment. Et il y avait un goût de plus en plus poussé pour ce format, pour ce média. Et parallèlement, il y avait un déficit qui était assez ancien, de formation, d'accès à l'initiation, à la création sonore, à la radio. Et donc, avec un groupe d'amis, on s'est dit, nous, on aime notre métier. On a le sentiment qu'il y a tout un public qui est un peu délaissé, de passionné, qui a envie d'apprendre ce qu'on fait. C'est pas très compliqué de partager notre savoir-faire. Donc, on va créer une sorte d'école. Et donc, on a eu l'opportunité de répondre à un appel à projet et on a pu ouvrir un lieu qui est maintenant ouvert depuis le mois de juin, qui est lié à cette école d'une certaine manière. Cette école se réunit ici maintenant quand elle le peut. Ensuite, depuis qu'on a ouvert le lieu, on a commencé à répondre à une demande qui est très importante, qui est celle de former les personnes curieuses, passionnées. Donc des choses qui sont très accessibles, à prix libre, des petites initiations de quelques heures, même un peu un guichet ouvert à l'initiation. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur appareil ou qui nous empruntent un appareil et qui nous disent « Bon, bah, comment ça marche ? Comment je peux enregistrer ?» etc. Donc ça, on le fait tout le temps. Et on fait aussi des initiations, on fait aussi des stages de création où vraiment c'est très important pour nous que ce soit de la création et pas juste des stages pour apprendre, mais aussi des stages pour créer, où on propose aux personnes que ça intéresse de créer un petit objet sonore qui leur ressemble en quelques jours.
Allez, un dernier test pour la route. Ouais, c'est pas mal, c'est entre moins 12 et moins 6, donc je touche plus. Et j'enregistre et tu fais un aller-retour, on fait ça.
Bonjour Nora.
Bonjour.
Tu es une des formatrices membres du collectif Transmission et tu es à la fois anthropologue et documentariste radio. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la logique derrière les 5 jours de stage d'initiation à la création sonore ? D'abord, on apprend le maniement d'un micro et ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Alors les stages qu'on fait jusqu'à présent, depuis le début du mois de septembre, ce sont des stages d'initiation. Ils sont ouverts à toute personne, même qui n'aurait jamais pris en main un micro, mais qui a l'envie de découvrir ce médium-là. L'idée principale étant de donner confiance aux personnes pour se lancer dans un projet. Et donc on commence par le maniement des micros et des enregistreurs avec des exercices les plus simples possibles de prise de son, de tester les différentes distances, de comprendre que quand on s'enregistre au milieu d'un carrefour ou quand on s'enregistre dans une cabine insonorisée, ça donne pas le même résultat. On leur propose aussi des exercices d'écriture sonore pour que les stagiaires comprennent les logiques de montage sans avoir à utiliser le logiciel de montage. Ensuite, on passe pas mal de temps à leur expliquer des techniques d'entretien, des techniques de relations humaines, en fait. Comment on fait pour réfléchir à un sujet, pour prendre contact avec des gens, quelle posture on doit adopter, dans quelle mesure ça peut être éventuellement un jeu de rôle quand on commence, de tendre le micro à quelqu'un sans être terrorisé, parce que ça fait peur, on peut le comprendre. Quand on n'a pas fait d'école de journalisme, dans laquelle j'imagine qu'on a pu faire des tonnes d'exercices. Donc on aborde voilà, des questions techniques, des questions de bon sens. Comment on fait un bon enregistrement pour qu'ensuite les étapes de montage soient le plus facilitées. Et ensuite, il y a une petite phase où on leur montre le logiciel sur lequel on travaille. Nous, on travaille sur Reaper, qui est un logiciel assez simple finalement, et on passe une journée ou une demi-journée là-dessus. Ça va assez vite, le plus souvent. Et ensuite, les personnes, pour quand même qu'elles sortent du stage avec la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose, évidemment, 5 jours, c'est pas beaucoup, on leur propose un exercice qui, pour le moment, est l'exercice de l'autoportrait. Et les personnes ont une journée pour enregistrer, après avoir reçu tous nos conseils de maniement des enregistreurs et des micros. Et ensuite, elles reviennent le jeudi avec tout leur rush. On discute évidemment, avant de les envoyer sur le terrain, de leurs idées, de leurs angoisses, de leurs inquiétudes. On leur donne des conseils si on en a. Et les 2 derniers jours, jeudi et vendredi, sont consacrés au montage et au mixage. Et on est 2 formateurs et formatrices. On forme toujours les stages en binôme. L'un ou l'une de nous, des membres du binôme, prend aussi en charge la transmission des savoir-faire techniques de montage et de mixage, comment on utilise les effets sonores, etc. Ça reste basique, mais le vendredi soir, les stagiaires repartent avec non seulement une création finie, on termine par une séance d'écoute, donc non seulement une création finie, mais aussi tout le bagage technique, humain, les réflexes du métier, entre guillemets, pour aller interviewer qui elles veulent, ou aller prendre du son dans n'importe quelle condition. Ce qu'on essaie de transmettre aussi, c'est que on n'a pas besoin d'avoir du matériel incroyable pour faire des bonnes prises de son ou pour faire une bonne création sonore, une bonne fiction, un bon documentaire, quelque chose de sensible, de touchant, ou même d'important politiquement. On peut très bien faire un podcast ou un documentaire amateur avec un téléphone portable si on n'a pas les moyens d'avoir un micro ou un zoom ou quoi que ce soit.
Donc ce sont 2 micros à chaque fois. Donc là, vous voyez très bien sur vos petits appareils qu'il y a 2 micros. Donc ça s'appelle un couple stéréo. Il y a 2 micros. La position comme ça, bah celui qui est à droite prend à gauche, celui qui est à gauche prend à droite. C'est une position XY. Et quand ils sont écartés, ça va avoir le même effet. Simplement, ceux-là, quand on fait une prise de voix,
et qu'on le met au centre, bah, on voit bien que les deux micros sont quand même bien orientés vers la personne. Et après, on vous montrera sur Reaper ou sur n'importe quel programme, c'est très simple de ne garder qu'une des deux pistes. Parce que quand on enregistre avec deux micros, ça veut dire qu'il y a chacun qui fait son enregistrement. Et on peut ne garder que l'enregistrement de celui-là ou de celui-là.
Fabia, 47 ans. Je suis responsable d'une association de médiation culturelle et sociale.
Alors, comment t'as trouvé cette semaine ?
Très intense. Elle est passée très, très vite. Mais c'est surtout... dès le lundi à 9h30, tout de suite en action avec le logiciel Reaper. Ben, moi, je ne connaissais pas du tout ce logiciel, donc effectivement, ça a été intense en fait.
Le sujet, faire son autoportrait en 4 ou 8 minutes. Mais comment je vais faire ? Parce que dans le groupe de stagiaires, je dois bien être la seule à avoir une deuxième journée qui m'attend après 17h30. Il est 18h, là, je sors de la formation.
C'est moi, hein, maman, parce que Bilal, il est toujours pas rentré. Il est toujours pas à la maison.
Coucou maman, c'est Bilal, je suis à la pharmacie, c'est quoi notre mutuelle ?
Mais ça fait quand même depuis une heure, hein, qu'il est pas là, qu'il est parti.
Bonsoir, Fabia, c'est Myriam.
Et donc, je veux juste savoir, hein. Là, tu l'appelles, hein.
Dis-moi, jeudi soir, je vais absolument pas pouvoir passer à la MAP.
Ok, bon, je t'appelle pour que tu puisses attacher ton vélo avec le mien. Et sinon, aussi, acheter de la farine complète. Il faut que tu achètes de la farine complète.
Mardi 19 octobre, deuxième jour de stage, 16h30, tour de table. Chaque stagiaire présente leurs idées. Tout le monde a plus ou moins une idée. Ça s'approche.
Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir participer à ce stage d'initiation à la création sonore ?
Alors, c'était en 2019. Une amie m'avait envoyé le lien de la cassette et je trouvais le manifeste de ce collectif hyper intéressant. Et moi, je suis amatrice, donc même si c'est un support que je veux utiliser dans mon travail, mais ça reste quelque chose de, d'artisanal. Et ce que proposait en fait la cassette, ça rentrait exactement dans ma philosophie. Ils sont exigeants, c'est des professionnels, mais voilà, ils acceptent aussi qu'on ne sache pas faire les choses. Et ça, je trouve que c'est ce qu'on appelle effectivement la bienveillance, et puis de révéler en chacun, chacune, son potentiel. Donc c'est comme ça que j'ai fait cette démarche de venir à ce stage, et j'en suis très contente.
Aujourd'hui, le podcast a démocratisé la diffusion, ce qui est en fait quelque chose de colossal. Démocratiser la diffusion, c'est vraiment ouvrir, c'est la vraie liberté des radios, c'est vraiment les radios libres, c'est le podcast en fait. Et pour pouvoir contribuer à démocratiser la production, il faut des outils. C'est pas le petit nombre de personnes qui peuvent se former au sein des radios qui vont pouvoir ni former les autres, ni accueillir des personnes qui vont ensuite produire leur podcast. Donc il faut des outils, il faut des structures qui vont favoriser par tous les moyens possibles l'ouverture, la démocratisation, la diversité dans les profils de producteurs. Pourquoi ? Parce que ce qui est en train de se passer avec la radio et avec le média radiophonique, ce qu'on appelle souvent le podcast, c'est évidemment une révolution dans la forme, dans la manière dont le média est diffusé. C'est surtout peut-être une révolution dans la manière dont le média est conservé, parce que à l'époque de la radio hertzienne, la conservation, c'était quelque chose de physique, donc de très peu accessible. Aujourd'hui, avec le podcast, on conserve en permanence, on met en ligne des choses conservées déjà, qui seront accessibles tout le temps. Et ça, en fait, c'est une révolution dans le contenu, parce que quand on peut accéder librement, quand on veut, à des contenus, eh bien, ça va encourager les créateurs à faire des choses qui seront adaptées à ce type de consommation. Pour moi, je l'explique souvent, mais j'en ai la conviction, et pour moi, c'est même une évidence. Pour moi, l'Internet est l'équivalent pour la radio de ce qu'a été l'imprimerie pour l'écrit. Et quand on est face à ce type de révolution pour un média, eh bien les enjeux sont colossaux et il faut qu'une partie de ces enjeux soit portée par des projets indépendants, des projets soucieux de leur indépendance, des projets à but non lucratif, des projets altruistes, des projets qui veillent à ce que leur impact soit avant tout créatif et social, et qui ne se soucient de leur rentabilité ou de leur pérennité que dans un second temps. C'est ce qu'on a fait, quoi.
Ziad Maalouf, cofondateur du collectif Transmission et de cet espace associatif La Cassette, bien installé à Aubervilliers, aux portes de Paris. Ce reportage nous a été proposé par Pauline Linard-Cazanave. J'adresse un salut amical à Ziad, Sarah Lefebvre, Charlie Dupio et toutes les équipes de Transmission et de La Cassette. Pour en savoir plus sur leurs activités ô combien importantes et inspirantes, rendez-vous sur www.lacassette.fr et si vous en avez la possibilité, déplacez-vous rue L'Écuyer à Aubervilliers. On termine cette émission avec Mondo Blog Audio qui fait entendre les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, il est question de déconnexion. Vous trouvez qu'il y a trop de bruit, trop d'agressivité, trop d'informations sur les réseaux sociaux ? Eh bien, suivez les conseils de Samantha Tracy qui a décidé de faire une petite pause dans ses interactions sur les plateformes sociales.
À l'abri derrière nos écrans, on partage, on commente, on amplifie. Ainsi, nos timelines sont envahies d'informations que nous n'avons pas demandées. Et parfois, croyez-moi, c'est l'invasion des imbéciles. Récemment, je me suis heurtée à une évidence. Le trop-plein d'informations que je recevais via les réseaux sociaux avait un impact considérable sur mon humeur et donc sur mon quotidien. De Twitter à Facebook, en passant par Instagram et même WhatsApp, je reçois quotidiennement un florilège d'informations, vraies ou pas, qui m'affectent. Jamais auparavant, ma présence sur les réseaux sociaux ne m'avait autant troublée. J'ai donc décidé de suspendre l'ensemble de mes comptes pour une période donnée. C'était une décision bénéfique, car j'ai pu facilement contrôler les informations que je recevais.
Vous avez un nouveau message.
Avant cette ère des médias sociaux, notre connexion à l'information était limitée et facilement contrôlable. On regardait la télévision, on lisait un journal, on choisissait d'allumer une station de radio ou non. Mais aujourd'hui, ce n'est presque plus possible. Nous recevons des informations en permanence, des informations que nous ne demandons pas. En fait, nous surconsommons l'information. Et je ne parle pas des échanges malsains, des commentaires avilissants et du harcèlement de tout genre sur les réseaux sociaux. Trop souvent, les mots sont durs. On assiste au bal des persécuteurs. Il n'est pas rare de voir des gens fermer leur compte parce que trop touchés par les injures et les commentaires malsains. Avant, j'aurais dit, pour les plus faibles d'entre nous, les médias sociaux peuvent s'avérer destructeurs. Permettez que je me rectifie. Pour nous tous, les médias sociaux peuvent être destructeurs. L'impact sur notre santé mentale n'est plus à prouver. On attend l'approbation des autres pour se sentir plus beau, plus drôle, plus talentueux, bref, pour exister ou se sentir aimé. C'est pour cela que j'ai décidé de tout mettre en pause, un peu sur un coup de tête, histoire de laisser passer le flot d'émotions qui m'envahissaient. C'était ma façon à moi de dire stop, stop. J'ai décidé de respirer, oui, de faire autre chose. Parce qu'en vrai, oui, en vrai, il y a des débats que l'on n'a pas besoin d'avoir avec un inconnu. Alors, de grâce, la prochaine fois que vous devrez interagir sur vos plateformes sociales, cliquez avec une bonne dose de compassion. Oui, cliquez avec compassion. Qui sait ? Peut-être que les réseaux sociaux retrouveront humanité et raison.
Mondoblog.org.
C'est Samantha Tracy, mondoblogueuse congolaise qui écrit depuis Dakar, sa ville de cœur. Ce mondoblog audio préparé par Camille Deloche est à retrouver comme tous les autres sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon Decreuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Partout où vous le pouvez, commentez et mettez des étoiles à l'atelier des médias. Ça nous permettra d'être plus visibles et donc encore plus écoutés. Écrivez-nous à l'adresse atelier@rfi.fr ou via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'atelier des médias.